Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voyons ce qui fait l'actualité en ce mardi 22 octobre 2019. En Guinée, prison ferme pour les instigateurs des manifestations meurtrières contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Au Mali, plus de 900 civils tués depuis janvier en raison des violences, d'après un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Dans la partie magazine, les ministres de la Santé de 10 pays d'Afrique centrale réunis à Goma pour renforcer leur collaboration contre l'épidémie d'Ebola.
Nous avons mis sur place un cadre de collaboration transfrontalière pour préparer la riposte éventuelle si la maladie devait dépasser nos frontières.
Au Canada, deuxième mandat pour le Premier ministre Justin Trudeau, mais avec un gouvernement minoritaire. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Un tribunal de Conakry a condamné aujourd'hui à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine. Manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé en 2020 et qui ont fait une dizaine de morts. De la capitale guinéenne, le compte-rendu de Zakaria Camara.
Abdourahmane Sano, coordinateur du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, est condamné à 1 an de prison, ses 4 compagnons à 6 mois de prison ferme pour attroupement non armé. 3 des 8 prévenus ont été relaxés pour délit non constitué. Sur son compte Twitter, Seydou d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition, parle d'une justice aux ordres, une honte pour la nation et le triomphe de l'arbitraire. Les avocats des leaders du FNDC qui viennent d'être condamnés ont promis de saisir la cour d'appel de Conakry pour faire libérer leurs clients dont ils clament l'innocence. Les femmes du FNDC prévoient une marche mercredi à Conakry qui sera suivie jeudi 24 octobre d'une manifestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. La proposition d'un changement de constitution par le président Condé est perçue par ses opposants comme une façon de s'éterniser au pouvoir. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Mali, plus de 900 civils sont morts depuis le début de l'année en raison des violences que connaît le pays, d'après un rapport de l'OCHA, c'est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La plupart des victimes ont été répertoriées dans la région de Mopti, où des centaines de villages ont été incendiés. De Bamako, le point avec Kassim Traoré.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Mali, OCHA, mentionne que les civils ont continué d'être victimes, en particulier dans le centre du pays, où les activités des groupes extrémistes violents et l'intensification des violences intercommunautaires, essentiellement entre les Dogons et les Peuls dans les cercles de Koro, Bankas et Banyangara, et entre Peuls et Bamana dans le cercle de Djéné. L'organisation a aussi dénombré, pour cette période, 311 000 personnes déplacées ou réfugiées, 276 000 enfants privés d'éducation et 922 écoles fermées à cause de l'insécurité, notamment au nord et au centre. OCHA a indiqué avoir également enregistré en octobre 310 000 réfugiés maliens au Burkina, au Niger et en Mauritanie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'un des cerveaux présumés du meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 est décédé en détention préventive aujourd'hui. José Tshibwabwa est mort à l'hôpital général de Kananga, où il était admis en urgence d'après son avocat maître Trésor Kabangé. Il est le 3e suspect décédé pendant sa détention dans le cadre du procès sur l'assassinat des experts onusiens devant la cour militaire de Kananga qui dure depuis 2 ans. Les 2 experts, la Suédoise d'origine chilienne Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp enquêtaient sur des fosses communes au cours du conflit armé qui opposait les forces de sécurité à la milice Kamuinansapu au Kasaï. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, indique qu'il va encourager le président Paul Biya à poursuivre sur la voie des réformes après la libération d'opposants et l'ouverture d'un dialogue dans la crise des régions anglophones lors d'un déplacement mercredi et jeudi au Cameroun. Le chef de l'État camerounais a créé la surprise début octobre en faisant libérer une centaine d'opposants, dont son rival à la présidentielle de 2018, Maurice Kamto, quelques heures après la clôture du grand dialogue national pour tenter de mettre fin au conflit séparatiste meurtrier dans les deux régions anglophones du pays. En Libye, de nombreux civils sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale Tripoli. C'est ce que déplore Amnesty International dans un rapport ce mardi. L'ONG basée à Londres évoque de possibles crimes de guerre. 2 ans de prison ferme ont été requis ce mardi à Alger contre 6 manifestants arrêtés en juin dernier en possession de drapeaux berbères. Selon la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ils sont poursuivis pour atteinte à l'intégrité du territoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau a obtenu un deuxième mandat après les législatives d'hier, mais son parti libéral se contente d'une majorité relative au Parlement, ce qui l'obligera à compter sur l'appui des petits partis de gauche pour survivre. Yacouba Ouedraogo pour les détails.
Selon les résultats officiels, les libéraux de Justin Trudeau ont remporté 157 des 338 sièges à la Chambre des communes. Son rival Andrew Scheer, des conservateurs, a recueilli 121 sièges. Les Canadiens ont rejeté la division à lancer Justin Trudeau devant ses partisans à Montréal, ajoutant qu'ils ont voté en faveur d'un programme progressiste et d'une action forte contre le changement climatique. Son leadership est endommagé et son temps au gouvernement va bientôt prendre fin, a affirmé de son côté M. Scheer. Justin Trudeau a reçu les félicitations de son allié américain Donald Trump. Sa majorité, le premier ministre canadien, doit maintenant former un gouvernement et devra tenir compte des exigences des partis sans lesquelles il ne pourra pas gouverner. Yves-François Blanchet, le chef du Parti Bloc québécois, avec ses 32 députés, s'est dit ouvert à une collaboration ponctuelle. Le patron du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, dont la formation a obtenu 24 sièges, a promis d'être constructif, disant aborder la formation du nouveau Parlement avec un esprit et un cœur ouverts.
Le président américain Donald Trump a comparé aujourd'hui l'enquête parlementaire des démocrates en vue de son éventuelle mise en accusation à un lynchage. Un autre ancien responsable de l'administration Trump témoigne à huis clos au Congrès aujourd'hui. Claire Morin-Gibourg.
C'est par un tweet que Donald Trump a fait part de son mécontentement concernant l'enquête parlementaire en vue de sa destitution. Tous les républicains doivent se souvenir de ce à quoi ils assistent ici, un lynchage, a-t-il écrit, suscitant de vives réactions chez les démocrates et quelques républicains. Les démocrates de la Chambre des représentants poursuivent leurs investigations. Aujourd'hui, Bill Taylor, chargé d'affaires américain en Ukraine, témoigne à huis clos. En septembre dernier, dans un SMS adressé à Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, il s'était inquiété des pressions exercées par la Maison-Blanche sur la présidence ukrainienne. Les démocrates majoritaires à la Chambre pourront voter la mise en accusation de M. Trump. Le Sénat, dominé par les républicains, aura le dernier mot. Il faudra le 2/3 de sénateurs pour arriver à destituer le président.
Les présidents russes et turcs se sont accordés aujourd'hui sur un retrait des forces kurdes du nord-est de la Syrie, prenant le contrôle en commun de la majeure partie de cette zone, en proie à un conflit croissant entre Ankara et combattants kurdes. Après 6 heures de pourparlers à Sotchi, en Russie, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché début octobre une opération militaire. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a subi une défaite importante dans sa tentative de former un nouveau gouvernement après les élections du 17 septembre dernier. Malgré une possible prochaine mise en examen pour corruption, Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir qu'il jetait l'éponge. Ce n'est pas pour autant la fin de l'impasse politique dans le pays. Depuis les premières législatives en avril dernier, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz arrivait en tête aux élections de septembre. septembre, ne dispose pas pour l'instant de majorité au Parlement. Ses alliés de la gauche ainsi que le ralliement surprise d'une partie des députés arabes israéliens ne suffisent pas à lui assurer les 61 députés nécessaires pour former un gouvernement viable. Suite du feuilleton du Brexit au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé ce mardi la suspension de l'examen de l'accord de Brexit au Parlement britannique après le rejet du calendrier d'approbation voulu par le gouvernement, en attendant une décision des Européens sur un éventuel report de la date de sortie. Après ce vote compromettant sérieusement les chances d'une ratification avant le 31 octobre, le Premier ministre britannique a indiqué devant les députés qu'il comptait demander aux Européens leur intention concernant le report demandé samedi. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le gouvernement ivoirien, en partenariat avec le footballeur vedette Didier Drogba et le chanteur de Magic System Assal Faux, a mobilisé 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs arabes à Dubaï pour son programme Sublime Côte d'Ivoire visant à développer le tourisme étranger. Ce projet a été lancé en mai pour un coût de 6 milliards de dollars sur 7 ans. La Côte d'Ivoire veut devenir la 5e destination touristique africaine d'ici à 2025. Elle souhaite que le tourisme contribue de 12% au PIB contre 5,5% actuellement et crée 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Le Nigeria a inculpé 2 ressortissants britanniques pour fraude et blanchiment d'argent après l'échec d'un projet gazier. James Nolan et Adam Quinn sont accusés de complicité dans la décision arbitraire d'un tribunal britannique condamnant le Nigeria à une saisie de 9,6 milliards de dollars d'actifs en faveur de l'entreprise PNID. Le Nigeria estime que les 2 hommes, directeurs d'une société minière enregistrée sur son territoire, ont permis de dissimuler environ 125 000 dollars aux autorités. Les 2 accusés ont nié les accusations, mais James Nolan reste en détention dans l'attente d'une prochaine comparution prévue le 20 novembre. Adam Quinn, absent, était représenté par ses avocats.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
5 Africains dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or.
Oui, les Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et Kalidou Koulibaly de Naples, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, Riyad Mahrez, l'Algérien de Man City, et l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool font partie des 30 nominés en lice pour la succession du Croate Luka Modric, vainqueur en 2018. Ronaldo et Messi sont aussi nominés, de même que Virgil van Dijk, coiffé sur le poteau par Messi pour le prix FIFA des Best. Le Brésilien Neymar est le grand absent de cette liste. Chez les femmes, l'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019, figure de grande favorite pour le trophée Copa du Monde, joueur de moins de 21 ans. Le Nigérian Samuel Chukwueze est nominé aux côtés de Matic Delay et Joao Félix, principal tête d'affiche. Le trophée Yashin du meilleur gardien pourrait tomber dans les gants du Brésilien de Liverpool, Alisson Becker, ou ceux de l'Allemand de Barcelone, Marc-André Ter Stegen. Les lauréats seront désignés le 2 décembre.
Troisième journée de la Ligue des champions UEFA ce soir.
Oui Jacques, entre autres rencontres, le Real Madrid de Zinedine Zidane doit gagner le match de la peur contre Galatasaray à Istanbul pour éloigner le spectre d'une élimination dès la phase de poule, ce qui serait une première. Dans ce même groupe A, le PSG vise la passe de 3 à Bruges sans le Sénégalais Idrissa Ganagé blessé. À suivre aussi Juventus Turin, Lokomotiv Moscou, Manchester City Atalanta Bergame, Olympiakos Bayern Munich ou encore Tottenham Étoile Rouge de Belgrade.
La FIFA, Yacouba, va débloquer 500 millions de dollars pour le foot féminin.
Et oui, cette décision doit encore être approuvée ce jeudi lors du conseil de l'instance à Shanghai et permettra de développer le football féminin dans les 4 prochaines années. Ces 500 millions de dollars seront prélevés sur les 2,7 milliards de dollars de réserves de la FIFA pour multiplier les possibilités de compétition pour les femmes. La FIFA veut aussi créer une ligue mondiale féminine pour les sélections. L'instance mondiale du ballon rond a déjà annoncé que le nombre d'équipes participant au mondial 2023 passera de 24 à 32.
Et la NBA reprend du service ce soir.
Clippers, Lakers, Rockets, Warriors, Nuggets, Sixers ou encore les Nets, les prétendants au trône NBA auront rarement été si nombreux. 4 mois après le sacre inédit de Toronto, les sérieux prétendants à sa succession sur le trône NBA se concentrent encore à l'ouest, à l'image du duel de Los Angeles Clippers-Lakers qui ouvre la saison ce soir. Kawhi Leonard et Paul George, arrivés en force chez les Clippers, vont défier LeBron James et Anthony Davis, recrues phares des Lakers. Bien avant ce premier choc de la saison, les champions en titre, les Raptors de Toronto, du Camerounais Pascal Siakam et Pelican seront aux prises.
Merci bien, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Cap d'emblée sur la République démocratique du Congo, les ministres de la Santé de 10 pays d'Afrique centrale ont planché sur le renforcement de leur collaboration dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le ministre de la Santé congolais et ses homologues des 9 pays voisins ont échangé hier à Goma sur la possibilité de développer un cadre de collaboration transfrontalière pour une réponse à l'épidémie qui a fait plus de 2170 morts en RD Congo. Eddie Sango s'est entretenu avec le vice-ministre congolais de la Santé, Albert Petit-Biyombo.
C'était important pour la République démocratique du Congo de rassurer d'abord les voisins, d'autant plus que de gros efforts ont été faits par la République démocratique du Congo pour lutter contre cette épidémie. Ainsi qu'avec l'Union africaine, nous avons mis sur place un cadre de collaboration transfrontalière pour préparer des réponses éventuelles, la réponse éventuelle si la maladie devait dépasser nos frontières. Mais au moment où je vous parle, je pense que nous allons vers la stabilisation de la maladie et que il y a même des lueurs d'espoir, dans ce sens que c'est ici qu'avec les efforts du professeur Mouyembe, avec les efforts du ministère, la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République, le président de la République, tous ces efforts ont fait que maintenant on a prouvé qu'on peut vaincre cette maladie. Malheureusement, il y a eu des morts, mais il y a beaucoup de survivants aussi. Nous appelons d'ailleurs les vainqueurs de la maladie, ils sont devenus des grands ambassadeurs pour expliquer que cette maladie peut être vaincue.
Avec 9 pays qui entourent le Congo, pratiquent comment ça va se faire?
Ce cadre-là, justement, va permettre l'échange d'informations. Il y a, comme je vous ai dit, sur le terrain, il y a eu plusieurs pays, il y a toujours répondu présent. Il y a eu l'Angola, la présence d'Angola, le Burundi, la République du Congo, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Donc ces pays sont venus parce que c'est une première d'ailleurs, c'est une première initiative, je vous dis, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo.
La rencontre a été organisée sous l'auspice de. Avec l'appui de l'OMS et des CDC Atlanta, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter comme soutien?
C'est sous l'égide de l'Union africaine. L'OMS, vous savez, c'est une grande organisation mondiale qui s'occupe de la santé. Nous allons pouvoir bénéficier de toute l'expertise de cette organisation et de leurs bureaux d'appui qui sont installés un peu partout en Afrique. Et c'est toute cette collaboration que nous allons mettre sur pied pour justement éviter que la maladie à virus Ebola s'étende, dépasse nos frontières.
Est-ce que au niveau des études, on compte faire un centre de recherche commun pour tout le pays de la région?
Ce sont des idées qui ont été avancer. Mais ce qu'il y a, je parlais de notre pays, nous avons un ensemble de recherches, l'INRB, qui est dirigé avec beaucoup d'efficacité par le professeur Mouyembe. Certainement, on va aller vers là. Je dirais que pour l'instant, on va être surtout des échanges d'informations entre ces centres de recherche.
Albert Petit-Biyombo, vice-ministre congolais de la Santé, était en ligne de Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Niger, quelques 23 000 personnes ont dû quitter leur foyer depuis début octobre à cause d'inondations dans la région de Diffa. Les pluies exceptionnelles enregistrées ces dernières semaines dans cette zone semi-désertique ont fait déborder la rivière Komadougou-Yobé qui alimente le lac Tchad. Plus de 45 000 personnes au total ont besoin d'une aide urgente d'après les autorités. De Niamey, le reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Le nouveau bilan de ces inondations a été annoncé par le ministre de la Santé publique qui procédait à l'ouverture d'un atelier de planification humanitaire pour l'année 2020. Docteur Idi Iliassou Menassara.
À la date du 20, nous avons enregistré à peu près 45 000 sinistrés. Mais Dieu merci, on n'a pas enregistré de pertes en vies humaines. Mais cela n'est pas pour autant que le gouvernement doit rester le bras croisé. Déjà, des dispositions sont prises au niveau du gouvernement et mieux, l'accompagnement des partenaires aujourd'hui est en train de nous permettre de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire face à cette situation. On a lancé un appel, on a encore demandé à cette communauté internationale de continuer à nous appuyer, surtout par rapport à cette situation qui était inattendue de la hausse de crue de la Koumadou.
Cet appel des autorités est appuyé par les élus locaux, Meirou Malam Ligari et le président du conseil régional des élus de Diffa.
Aujourd'hui, vous avez des populations qui se déplacent massivement. C'est toute la rivière de la Koumadougou. Donc tous les villages qui sont situés aujourd'hui sur la rivière de la Koumadougou sont menacés. Et surtout que nous ne contrôlons pas trop ce qui se passe surtout en amont, dans le Nigeria. Et donc ce qui fait que effectivement nous devons encore être beaucoup plus prudents, n'est-ce pas, pour observer la situation qui, ma foi, a commis beaucoup de dégâts. Et vous voyez déjà les zones de culture sont totalement inondées, donc c'est déjà vraiment une catastrophe qui est dommageable en tout cas pour la production agricole de cette année. Et nous sommes venus à cette rencontre de la programmation donc des actions humanitaires pour faire un plaidoyer et afin que vraiment la région de Diffa puisse être sérieusement prise en compte.
Les besoins humanitaires des sinistrés ont déjà été énumérés par les parlementaires de la région en début de semaine.
La relocalisation des personnes sinistrées, la prise en charge alimentaire et sanitaire des sinistrés, la création des conditions d'alimentation en eau potable et en hygiène et assainissement, la protection des zones potentiellement inondables. Nous exhortons le gouvernement à une prompte réaction pour une prise en charge adéquate des populations sinistrées ainsi que la définition des stratégies durables pour faire face à de telles situations devenues chroniques.
C'est depuis le 15 octobre dernier que la rivière de la Koumadougou-Yobé connaît une crise soudaine et inattendue occasionnant d'importants dégâts. Elle vient aggraver la situation des populations déjà grandement éprouvées par les conséquences de la crise sécuritaire née des attaques de la secte Boko Haram. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ouverture demain à Sochi du sommet Russie-Afrique avec la présence d'une quarantaine de chefs d'État. Moscou, qui a perdu du terrain sur le continent depuis la dislocation de l'Union soviétique, cherche à redynamiser ses relations avec l'Afrique. Depuis 2010, le commerce entre la Russie et les pays africains a presque quadruplé, atteignant 20 milliards de dollars en 2018. Pour une analyse, Abdourahman Dia joint à Cotonou Ignace Fanou, rédacteur en chef du site 24h au Bénin.info, qui a également fait ses études en Russie.
Vous savez, pendant la période soviétique, on a constaté la présence de l'Union soviétique dans plusieurs pays africains, surtout les pays qui avaient choisi la voie révolutionnaire. Depuis la perestroïka menée par Gorbatchev et le coup d'État qui s'en est suivi, l'Empire soviétique s'est disloqué. Et aujourd'hui, quelques années après avoir réglé un peu ses problèmes internes, la Russie a voulu continuer cette mission que l'Union soviétique exerçait par le passé, et c'est ça qui montre aujourd'hui le retour de la Fédération de Russie sur le continent africain.
C'est vrai que la Russie n'a jamais complètement quitté le continent après la chute du mur de Berlin, mais son influence y a fortement diminué, n'est-ce pas? Pourquoi cette volonté de redynamiser ses relations avec l'Afrique à ce moment précis?
La Russie a voulu reprendre cette mission que l'Union soviétique exerçait dans le temps-là. Et c'est ça qui montre un peu sa présence sur le continent pour montrer quand même que l'Union soviétique n'existe plus, mais la grande Russie est toujours là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un peu les richesses du continent qui préoccupent un peu tous ces pays-là.
Y compris donc la Russie.
y compris la Russie. La Russie se ressent déjà dans plusieurs pays, surtout dans le secteur des mines, surtout en Centrafrique, où la présence de la Russie est beaucoup poussée dans les mines. Et ça gêne aussi énormément les Français. Ils sont aussi dans les pays comme la Guinée et autres, là, en Angola, un peu partout. Bon, les pays où ils avaient exercé un peu leur puissance au temps de l'Union soviétique, on a compris aujourd'hui que la Russie est en train de revenir un peu sur ce terrain-là, en RDC, un peu partout. Tous ces pays qui avaient quand même des ressources. La Russie aussi a compris que l'Afrique est un continent qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut conquérir aussi.
Depuis 2010, le commerce entre la Russie et les pays africains a presque quadruplé, atteignant 20 milliards de dollars en 2018. Mais que peut tirer à son tour l'Afrique de ses relations avec la Russie?
Dans le domaine de la formation des cadres, il faut avouer que l'Union soviétique a formé beaucoup de cadres pour les pays africains, contrairement à certains pays occidentaux. En dehors de cela, peut-être dans le domaine des échanges de technologies, la Russie a un peu aidé beaucoup d'Africains à former des ingénieurs, à former des cadres dans le domaine de l'industrie et tout ça là. Et puis aussi, bon, n'oublions pas que la Russie a beaucoup d'expérience dans la réalisation d'infrastructures.
On écoutait Ignace Fanou, rédacteur en chef du site 24h au Bénin.fr.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les forces américaines dans le nord-est de la Syrie ont traversé la frontière pour se rendre en Irak, conformément au retrait ordonné par le président Donald Trump peu avant l'offensive turque. Certains analystes estiment que ce retrait crée un vide en faveur de la Russie. Le point avec Lionel Gaïma.
Au passage d'un convoi des troupes américaines traversant le nord de la Syrie pour se rendre en Irak, des civils kurdes lancent des pommes de terre et des insultes, certains criant « Allez, Amérique menteuse !» Démocrates et républicains ont critiqué l'abandon des Kurdes à la merci de la Turquie alors qu'ils sont alliés de longue date. À la Maison-Blanche, le président Donald Trump a défendu ce retrait.
Nous travaillons avec les Kurdes. Nous avons de bonnes relations avec les Kurdes, mais nous n'avons jamais pris l'engagement de protéger pour toujours les Kurdes. Nous avons combattu avec eux pendant 3 ans et demi ou 4 ans. Nous ne nous sommes jamais engagés à les protéger pour le restant de leur vie.
Ce retrait soudain de la Syrie porte atteinte à la crédibilité des États-Unis en tant qu'allié fiable, affirment de nombreux membres du Congrès. Brian Catullis du Centre américain pour le progrès.
Beaucoup de pays de la région, de l'Arabie saoudite à Israël, en passant par la Jordanie, suivent de très près les actions des États-Unis vis-à-vis des Kurdes. Ces derniers étaient sur la ligne de front pour vaincre militairement le groupe État islamique. Ils n'ont pas tiré une grande leçon et se disent « Regardez, l'Amérique est un pays sur lequel nous ne pouvons plus compter ».
Pour d'autres analystes, ce retrait laisse un vide et la nature a horreur du vide. Boulent Alireza du Centre d'études stratégiques internationales, un think tank basé ici à Washington.
Si les États-Unis retirent leurs troupes et réduisent ainsi leur influence au Moyen-Orient, il est évident que quelqu'un va en profiter. Et il s'agit principalement de la Russie, du président Vladimir Poutine, qui relance sa politique étrangère au Moyen-Orient.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu ce vendredi à Sochi par le président Vladimir Poutine.
J'espère que le niveau atteint par nos relations permettra de jouer un rôle dans le règlement de tous les problèmes et trouver les réponses à toutes les questions, même les plus difficiles, dans les intérêts de la Turquie, de la Russie et de tous les pays de la région.
Moscou est le principal allié de Damas et l'a soutenu pour combattre les rebelles syriens afin de reconquérir les pans entiers de la Syrie, dont les villes de Latakié, Alep et la province d'Idleb. La Turquie et la Russie ont coopéré étroitement ces derniers mois. L'achat par Ankara du système de missiles russe S-400 en juillet dernier a provoqué la colère de Washington, qui est aussi son allié au sein de l'OTAN.
Et j'ajoute que le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état ce mardi d'un accord historique sur la Syrie conclu lors d'une réunion avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi en Russie. D'après Erdogan, il s'agit d'un accord pour la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie, ainsi que pour le retour des réfugiés. Moscou est l'allié du régime syrien de Bachar al-Assad. Et voilà, c'est ici que nous refermons le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. À la console, on avait l'aide de Zuber Al-Taeb. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à très bientôt. Take care.